Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
C'est à nous déjà,
oui, c'est
mais c'est pas
nous.
Possible.
Bonsoir.
Ben bonsoir à tous et à toutes. On s'est laissé surprendre par le temps.
Mais oui.
Alors notre invité vient juste de s'installer. Nous étions en train de l'accueillir.
Voilà.
Voilà. Du coup, notre invité, ben, tu nous le présenteras tout à l'heure, dans quelques instants d'ailleurs.
Oui.
Lolo. Lolo qui est à mes côtés, toujours fidèle au poste.
Bonsoir.
Toujours aussi brillante.
Oh, je trouve.
Et souriante, mais ça, bon.
Oui.
Le sourire s'entend à la radio.
Oui, correct.
Et nous avons donc notre ami Bernardo, toujours à la régie.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Et accompagné ce soir de Boris, son bonsoir. Petit stagiaire. Petit stagiaire régie. Alors, donc, Lolo, nous avons ce soir un invité exceptionnel.
Exceptionnel.
C'est
la première fois qu'il vient.
Ouais.
Ouais, c'est la première fois que je fais tout ça aussi, le casque, le micro.
Ouais.
C'est la je me suis entraîné tout l'été, j'ai écouté Laura Adler sur France Culture, j'ai essayé d'imiter ça. Sa voix suave, sensuelle.
Alors présente-nous ton invité, ma petite Lolo.
Donc c'est Marguerin Lelouvier. Bonsoir.
Bonsoir.
Marguerin Lelouvier qui travaille à la bibliothèque municipale
tout
de
à
la
fait.
Part-Dieu, c'est ça, je me trompe pas.
Donc je représente ce soir le service public et toute sa magnifique programmation, etc., etc.
Mais on se tutoie, non c'est plus...
Ouais.
Allez,
ouais.
Ça sera plus simple. Tu viens parler de femmes artistes et domaine public.
Oui, tout à fait.
C'est
un atelier numérique, puisque je suis animateur numérique, donc je m'occupe d'une salle informatique publique, où on donne en gros des formations sur tout ce qui est culture, lié au web, aux réseaux sociaux, et tout ce qui est aussi logiciel, etc. Mmh. Et on propose donc le 17 octobre une espèce de collecte de documents, d'œuvres notamment, ouais. Pour redonner une visibilité aux femmes artistes, tombées cette année dans le domaine public.
D'accord.
Donc c'est une collecte à la fois de photos, d'e-books, tout ce qui est documents numériques qu'on va collecter sur une clé USB qui émet un réseau Wi-Fi, donc qu'on a appelé Bibliobox. Mmh. Voilà un peu pour le principe de l'atelier qui va se dérouler donc très bientôt.
Mais du coup, t'es tout seul à organiser cet atelier ?
On est deux avec ma collègue Carole Duguy, mmh. qui est une libriste aussi également active voilà, à la bibliothèque et à l'animatrice tout comme moi. Et ouais, c'est un projet qu'on a monté à deux. Voilà. Puis c'est dans le cadre d'un événement plus large qui s'appelle Créer et Résister, qui va se passer de octobre à janvier à peu près.
D'accord.
Donc avec des expos, des ateliers sur le hacking, tout ce qui est culture de résistance, et en lien aussi avec l'art, donc art et résistance, c'était le thème de cette année.
Tout à la bibliothèque de la Part-Dieu.
Surtout le réseau des bibliothèques de Lyon.
D'accord.
Faut savoir que les bibliothèques de Lyon, c'est un réseau absolument prodigieux de, si je ne me trompe pas, 15 bibliothèques. Donc, toutes les bibliothèques n'ont pas un espace numérique. Mais ouais. Voilà, on est en lien. Toutes les bibliothèques sont en lien, oui.
Tu parlais donc de la Bibliobox. Alors moi,
ouais.
Je trouve ça super intéressant, mais j'ai du mal, concrètement,
ouais.
à me visualiser la chose.
Ouais, en fait, c'est une toute petite boîte, c'est un petit boîtier. Très concrètement, c'est une clé USB qui émet un réseau Wi-Fi. Et il suffit de se connecter avec un ordinateur portable ou une tablette pour accéder au contenu de ces dossiers. Alors, c'est sur le modèle de ce qu'on a aussi appelé une pirate box. En fait, c'est un objet que chacun peut construire. Faut avoir peut-être petite notion en programmation, etc. Mais il y a plein de tutoriels sur le web pour construire sa propre pirate box.
Ouais.
Et en fait, c'est une espèce de pochette surprise dans laquelle on peut déposer n'importe quoi. Et en se connectant avec un ordinateur ou une tablette, on peut accéder un peu au contenu de cette clé USB. Et à condition que les documents soient libres, en fait, libres de droit ou
d'accord.
dans le domaine public. Sinon, ça déborde des cadres de partage de culture légaux.
Sinon, ça devient illégal, en fait.
Tout à fait.
D'accord.
Ça devient,
mais du coup, il y a une clé.
Oui, là, celle qu'on a construite, effectivement, il n'y a qu'une clé. Je pense qu'on peut développer le truc en branchant peut-être un disque dur externe ou quelque chose comme ça.
D'accord.
Mais oui, c'est une clé, ouais, tout à fait.
Et le but de... On reviendra plus après sur femmes artistes et domaine public, mais du coup, vu que ça part quand même de la bibliobox, si je ne me trompe pas, le but, en fait, de la bibliobox, c'est quoi exactement ?
Le but, bah, si tu veux, c'est de... C'est de faire participer le public un peu à tout ce qui est la production et partage de contenu à la bibliothèque, c'est de rendre l'usager de la bibliothèque un peu actif et de le faire participer à tout ce qui est à une espèce de programmation culturelle. Il pourra lui aussi déposer un peu les livres qu'il aime, la musique qu'il aime dans ce dossier-là. C'est une espèce d'interface entre nous et l'usager de la bibliothèque, si tu veux.
D'accord. Oui, c'est vraiment... au départ, c'est quand même quelque chose qui part des bibliothécaires, quand même.
Oui, là, dans ce cas-là, des animateurs numériques, mais ça sollicite un peu tous les étages de la bibliothèque. Mmh. Tu peux demander au département sciences de nous faire une petite programmation de bouquins sur je sais pas quel thème... Oui, c'est assez collectif comme principe. Ouais.
D'accord. Et donc là, du coup, dans l'atelier atelier collaboratif, on peut dire ça, que vous allez présenter le 17 octobre.
Oui.
Donc c'est le thème sera femmes artistes et domaine public. Donc du coup, là, vous vous intéressez, enfin ce jour-là, et les jours à suivre, je suppose, aux créations d'artistes femmes uniquement.
Ouais, tout à fait.
Et pourquoi ce...
Parce que la bibliothèque est un matriarcat féministe absolument prodigieux. Non, parce que ces thématiques d'égalité dans les arts et la culture, nous touchent, nous intéressent personnellement. C'est aussi dans tout ce qui est fait régulièrement avec la bibliothèque. Le point G que vous connaissez très certainement, le fonds de ressources genre et sexualité, toutes les questions qui touchent à l'égalité homme-femme et au rapport de sexe dans l'art et la culture nous intéressent. Donc là, c'était une façon de réduire le gender gap ou la disparité homme-femme, notamment dans le patrimoine culturel. T'as ce terme que les associations féministes utilisent, qui est le terme de matrimoine, qui décrit en fait... l'héritage culturel transmis par les femmes artistes et qui est dénigré par plein de mécanismes sexistes et misogynes qui tendent à mépriser les travaux des femmes artistes et leurs contributions à l'histoire collective. Donc c'est une façon de rehausser un peu, de redonner une vie à ces œuvres qui ont été, qui sont bannies des manuels scolaires, qui sont bannies des musées, etc. Donc c'est un atelier, on va dire, militant et une façon de faire vivre des œuvres un peu oubliées, quoi.
Mais tu parles de mépris. Pour toi, c'est vraiment du mépris ? C'est vraiment la volonté de mettre de côté certaines créations, travail ou rôle dans l'histoire de certaines femmes ? Ou c'est juste, ça peut être triste à dire, mais une sorte d'habitude ?
Oui, c'est une habitude. C'est pas forcément intentionnel ou volontaire. C'est... cette misogynie, c'est un état d'esprit, c'est des réflexes qu'on peut tous avoir et qui sont cultivés, qui sont reproduits, etc. Donc c'est vrai que c'est pas... il faut pas dire qu'il y a un complot ou il y a une intention d'invisibiliser les femmes, quoique parfois ça peut être le cas. Mais ici, c'est plutôt il y a un état d'esprit sexiste qui se reproduit avec plein d'effets, oui.
Mais du coup, ce projet-là, ça fait longtemps que vous l'aviez en tête ?
C'est tout chaud, mais c'est vrai qu'on avait déjà fait quelque chose dans ce style l'année dernière. On avait utilisé Wikipédia, pour le coup. Mmh. On avait imaginé un moment de contribution qu'on appelle un éditaton, dans le jargon des Wikipédiens. En fait, c'est un moment de formation. On va un peu expliquer au public comment contribuer à Wikipédia, donc l'encyclopédie libre en ligne, comment tu édites un article, comment tu sources un article, etc. Et du coup, on avait fait ça sur le thème également de la disparité homme-femme sur l'encyclopédie, parce qu'on retrouve exactement les mêmes inégalités que dans les... les panthéons, etc. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'hommes qui contribuent, il y a à peu près 80% de contributeurs, si je ne me trompe pas. Et du coup, ça impacte directement sur le contenu des articles. Les femmes artistes vont avoir moins de... comment dire, de fiches qui leur sont dédiées, d'articles. Du coup, on avait sélectionné plein de, je sais pas, des poètes, des photographes, des femmes peintres, etc. Pour leur créer une fiche parce qu'elles en avaient pas. Donc, on avait fait ça sur 3 heures. C'était super chaud parce qu'il fallait en faire, fallait compléter toutes ces fiches d'un coup. Et mais c'était chouette. Enfin voilà, du coup, c'est des thèmes qui nous intéressent, pour lesquels on a de la curiosité, puis ouais, pas mal de. Voilà, d'envie de révolution, quoi.
Je crois que c'est sur le site, j'ai vu, il y avait un calendrier de l'Avent, mais du coup, j'ai pas trop compris qui avait fait ce calendrier, si c'était vous, la bibliothèque, ou si c'était vous vouliez vous en inspirer.
Oui, on s'en est inspiré, ouais. Le calendrier de l'Avent du domaine public, c'est une association de libristes, il me semble. Je ne saurais pas dire exactement ce que c'est, je ne me souviens plus. Mais effectivement, c'était un calendrier de l'Avent pour dire, voilà, tel jour, il y a tel artiste, son œuvre va tomber dans le domaine public. On peut maintenant partager sans restriction son travail, enfin sans restriction. On peut utiliser, diffuser, etc. Et ça donne, c'est l'occasion du coup de revaloriser ce qu'il a fait.
Et donc, etc. Le but pour vous, ce serait de faire le même calendrier de l'Avent avec uniquement des femmes.
Oui, alors c'est déjà ce qu'on est en train de faire, parce qu'on va aiguiller le public, on va pas leur dire bah, allez-y, cherchez, allez à la pêche. Non, on a un peu prémâché le travail, si tu veux, donc on a fait en sorte que les gens qui veulent participer avec nous à enrichir la bibliobox pour mettre des œuvres ont déjà des pistes. Donc on a fait plein de fiches avec plein d'écrivaines, de peintres, etc. Et il n'y aura plus qu'à en fait aller chercher sur internet, donc dans les bibliothèques, dans les musées, etc. Aller chercher un peu voilà, sur le principe. Bon. Après, je sais pas encore très bien, c'est vraiment un test, mais on va voir un peu qui va contribuer, comment, etc. Avec un peu l'idée que, voilà, pourquoi les gens contribuent sur Wikipédia aussi, c'est souvent parce qu'ils ont envie de partager quelque chose, donc c'est toujours dans cette idée un peu militante, quoi.
Oui. Vous avez pas peur, il y a Wikipédia, passé un temps, ils avaient un peu une image, pas une très bonne presse. Sur la véracité des articles qui étaient mis en ligne.
Oui.
Vous n'avez pas peur que ça rejaillisse un peu sur fiches que vous voulez faire ?
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit souvent, n'utilisez pas Wikipédia, c'est pas fiable, etc. En fait, c'est généralement plus sûr d'aller voir sur Wikipédia que sur un blog dont on ne connaît pas l'auteur, etc. Parce que, tout simplement parce que Wikipédia, les savoirs qui sont partagés sont régulés par une communauté qui surveille tout le temps ce qui se passe. Quand tu vas modifier une fiche en mettant Ségolène Royal, je sais pas, c'est un exemple mais qui est assez connu parce que des gens avaient justement fait de la désinformation sur sa page Wikipédia, l'information elle reste jamais longtemps, elle reste une heure gros max parce qu'il y a toute une communauté qui surveille la véracité de l'info, l'orthographe, les sources, enfin c'est vraiment un grouillement de plein d'internautes.
C'est quoi l'histoire de Ségolène Royal ?
Je ne me souviens plus exactement, c'était pendant la présidentielle, le face-à-face Ségolène-Nicolas Sarkozy. Et je ne savais plus, il y avait une histoire comme quoi, enfin, sa fiche avait été entièrement refaite avec plein d'intox, etc. Et vraiment pour lui nuire, quoi. Bon, ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Mais sur Wikipédia, mais ça dure jamais longtemps, ça n'est jamais vraiment en ligne. C'est plutôt un support de partage d'informations qui est fiable. Moi, je me fie plutôt bien à Wikipédia. Et en fait, en faisant cet atelier, je suis devenu contributeur aussi. Voilà. J'aime bien rédiger des articles de temps en temps. Tout ce qui est d'ailleurs mémoire gay et tout, c'est super important parce que c'est pas forcément un secteur forcément, où les gens vont forcément énormément contribuer. Du coup, il y a tout un chantier à faire sur l'histoire gay et lesbienne en France, ou les luttes LGBT en général. C'est vraiment trop passion, il y a tout un chantier à faire pour enrichir Wikipédia. Je vous invite ce soir à vous inscrire sur Wikipédia, à contribuer.
Il y a depuis plusieurs mois, enfin même, bon, c'est ce que j'ai vu de ce que je sais, depuis un ou deux ans, on va dire, il y a plusieurs actions de visibilité, on va dire, qui sont faites à Lyon. Au printemps 2014, il y avait un collectif féministe qui avait rebaptisé, tu sais, Gérald, rebaptisé des rues du oui. premier arrondissement. Mmh. Et donc, elles avaient mis des noms de grandes figures de la cause des femmes. Donc, il y avait Virginia Woolf, entre autres, hein, Rosa Luxembourg, Rosa Parks. Il y avait aussi Fifi Brin d'Acier. Pourquoi pas, oui. Bon, il y a le travail dont tu parlais, Marguerin, tout à l'heure, du Point G. Ouais. Le centre de ressources sur le genre, donc à la bibliothèque municipale. Il y a aussi, donc je crois que ça fait à peu près un an, il y a la Panthéon. C'est oui, Gérald, on avait reçu Guillaume ouais. Tania de la plateforme Égalité qui nous avait parlé de ce site participatif. Ouais. Donc qui est, on rappelle, donc la Panthéon, c'est une sorte de monuments, on va dire, virtuels et participatifs dédiés aux femmes illustres. Donc Marguerin, je suppose, c'est des actions que tu connais, dont tu as entendu parler,
oui.
Ou tu connais peut-être certaines personnes qui participent à ces projets-là. Mais du coup, c'est des associations ou des collectifs avec lesquels vous êtes amenés à travailler.
Oui. Par exemple, pour l'éditathon sur les femmes artistes, on avait invité HF Rhône-Alpes. Mmh. Voilà, visibilité, égalité homme-femme dans les arts et la culture, quelque chose comme ça.
Le spectacle vivant,
ils sont. Oui, le spectacle vivant, ouais. Ils sont très branchés, ouais, théâtre, mmh. Etc., cinéma. Et du coup, on les avait conviés, puis elles avaient un peu fait tout un topo ouais, sur beaucoup de chiffres. Le fameux rapport Rennes-Pratt. Qui est le rapport sur les inégalités hommes-femmes dans le monde du spectacle en France.
D'accord.
Avec des chiffres accablants. Voilà. Du coup, c'est vrai que dans tout ce qui est qui gère les théâtres, la programmation, etc., c'est souvent... Il y a une forte disparité. Oui.
Ok. Ça me fait penser, j'ai vu... je vous l'avais partagé aussi sur le site. Comment on appelle ça ? Ben, je trouve plus le mot. Sur la page du site, en fait, il y avait des affiches de concerts, de festivals cet ouais, été. Oui. Et du coup, les graphistes ou l'association, je suis désolée, je ne me souviens plus, a fait des gifs, en fait, pour montrer, en fait, si on enlève les noms des hommes et si on met juste ceux des femmes artistes qui participent au festival, bah, qu'est-ce qui reste ? Et ben,
pas grand-chose.
Ah, mais c'est... Ah ouais. C'est franchement, c'est affligeant. Mmh. T'as la couleur de l'affiche, on va prendre violet par exemple, où on voit presque que du violet, et puis t'as 4 ou 5 noms de femmes qui se courent après comme ça. Mmh. Et ça, c'est flagrant. Mais je trouvais que c'était du coup une excellente démonstration pour voir à quel point, du coup, c'est surtout les artistes, enfin là, dans le cas, c'était des chanteurs, surtout masculins, qui sont privilégiés ou plus montrés. Et sans qu'on sache trop vraiment pourquoi, finalement.
À Lyon, c'est la... Moi, je trouve que c'est la catastrophe. Enfin, c'est la catastrophe. Je ne vais pas blâmer les programmateurs et les salles. Mmh. Mais c'est vrai que quand on voit un événement... typiquement, c'était les nuits sonores. Mmh. Le rapport... Enfin, la programmation était à 98% masculine. Mmh. Et j'avais fait un gif pour l'occasion, d'ailleurs. Quand tu faisais clignoter l'affiche en faisant disparaître tous les noms de mecs, bah, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus personne. Mmh. Il restait trois meufs perdus sur l'affiche. C'est vraiment... Oui, ça, c'est inconscient. Les équipes font même pas gaffe. C'est juste, voilà, c'est comme ça. Du coup, c'est terrible. Mais ouais, à Lyon, ça dépend les salles, mais après, c'est vrai qu'il faut chercher. Moi, en tant que public PD et gay, c'est vrai que j'ai toujours écouté vachement de meufs. Ça a commencé. Alors, tout a commencé. Avec Zazie. Non, mais bref, j'ai une discographie qui est quasiment exclusivement féminine. Et quand je vois, par exemple, des potes, je sais pas, qui lisent Noise ou j'en sais rien, ils écoutent principalement que des mecs. Enfin bref, pour moi, c'est vachement lié à, pas forcément la sexualité, mais la culture gay en général a vachement accordé une place importante aux femmes artistes. ce qui fait peut-être que je m'intéresse aussi à tout ça. Mais du coup, j'ai un peu du mal aussi à trouver des concerts intéressants à Lyon. Je sais pas si les auditeurs et les auditrices c'est pareil, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait pas, je sais pas, là c'est le gros comeback de Peaches, ça coûtait rien de l'inviter à Lyon, putain. Bon voilà, enfin tout ça, ce genre de trucs. Oui. Je trouve qu'il y a pas assez de, ouais, ça manque un peu de meufs quoi.
C'est vrai.
C'est vrai.
C'est bien dit, ça manque un peu de meuf. Ouais, juste.
Fais un petit... Oui, vas-y, vas-y, petite... on pourra faire une petite coupure musicale.
Donc, là, vous vous servez exclusivement du web et des réseaux sociaux pour partager sur le projet où vous avez d'autres sources de communication.
Oui, pour faire de la com, ouais, principal. On a notre blog, on a le blog de l'espace numérique, des espaces numériques des bibliothèques de Lyon, qui est Vive la culture numérique.
Oui.
Là, vous retrouvez vraiment tous nos ateliers, tout ce qu'on fait, etc. Donc, cet atelier-là, qu'on a tendrement appelé « Chercher la femme ». Donc, oui, on fait notre com beaucoup sur Internet. Mais sinon, on invite vraiment les gens à se manifester, se déplacer physiquement et venir nous voir. On est une petite équipe assez motivée. On fait plein de trucs. Tout ce qui se rapporte, ouais... aux cultures numériques en général, on fait des ateliers graphisme, on fait des ateliers d'initiation en général. Donc venez, venez, venez. Et voilà.
Et donc là, on répète donc le samedi 17 octobre de 16h à 18h.
Oui, c'est ça.
À l'espace numérique de la bibliothèque de la Part-Dieu, 3e étage.
Voilà, au fond, tout au fond du 3e étage. Vous traversez le rayon science et on est une grande salle pleine d'ordinateurs tout au fond, ouais.
Voilà, très bien. Atelier collaboratif, femmes artistes et domaine public.
Parfait. Bah, en tout cas, la programmation musicale ce soir est très masculine, justement. Oh, on a rejeté Joan Jett en fin d'émission. Oh, mais Joan
pourquoi
Jett, bah oui, parce qu'on l'avait déjà diffusé avec l'émission des filles quand elles étaient venues du collectif Les
Amis. C'est toi qui l'as rejeté, c'est ça?
Voilà,
t'étais pas
dit,
très chaud.
On mettra à la fin.
Bernard était pour.
Parce que moi, je suis un homo macho, ça existe. Hein, voilà. Donc du coup, nous on va avoir Ben Harper.
Non mais il dit ça, mais c'est pas.
Philippe Catherine.
Il se donne une image de macho.
C'est pas très
crédible. Il est
crédible. C'est pas très crédible. Voilà. En tout cas, on va écouter pour commencer Ben Harper. Ben. Papa, he left home today and said he ain't coming back again. Gonna be nobody's second best just 'cause mama's got a special kind of friend. Well, Papa, he left home today and said he ain't coming back no more. Said he ain't gonna take no damn backseat, and how could mama do him so low? But mama's got a girlfriend now, boy. Mama's got a girlfriend now. Mama's got a girlfriend, mama's got a true friend, and mama's got a girlfriend now. You see, mama don't watch your damn friend. Drinking just won't do. You're just a staying out late and you're preaching the heat, and you never have been true. You see, your mama, she want her somebody, Lord, who would let her be herself. So she's leaving you in your stinky damn ways 'cause she's found somebody else. Mama's got a girlfriend now, boy. Mama's got a girlfriend now. Mama's got a girlfriend. Mama's found a true friend. Mama's got a girlfriend now.
la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Et ben voilà.
Macho !
De retour. Nous voilà de retour sur, à l'antenne, donc toujours avec Lolo. Lolo, la fille de l'émission, d'ailleurs.
Ah ben oui. Hein, voilà. Oui. La seule.
Il en fallait
avec
une,
des
donc,
hommes. Non, mais j'ai l'habitude au travail, je suis la seule fille aussi, tout va bien. Tout va bien.
Et donc en compagnie de Marguerin, Le Louvier. Alors moi, il y a une question que je me pose, mais on va y répondre rapidement parce que l'émission tourne. Mais tu parlais justement du goût des gays, de l'attrait des gays pour les femmes artistes. On a fait d'ailleurs une émission, pas la première, sur les divas, les icônes gays, la semaine dernière avec Yvan, notre chroniqueur cinéma. Et finalement, pourtant, nous, on pourrait nous considérer, nous autres homo, hommes, comme le comble du machisme, puisque dans notre vie, nous excluons les femmes. On est d'accord, normalement. Hein. Bon, après, tout le monde ne les exclut pas complètement sur le plan sentimental ou sexuel non plus. Mais on va dire que quand on est gay, on est censé ne pas avoir de femmes, quoi, dans notre vie intime. Est-ce qu'on ne recherche pas à recréer, juste... Est-ce que ce côté féminin, on n'en a quand même pas besoin? C'était Genet qui disait à un moment, je crois que c'est dans Querelle de Brest, que les hommes entre eux, à un moment donné, recréent le féminin entre eux. Ils en ont besoin. On a besoin de cette part faite de femme, de féminité dans une vie, même dans une vie complètement faite, justement, dans une vie uniquement composée d'hommes, je dirais.
Moi, j'ai jamais exclu les femmes de ma vie. Et même,
non, mais je veux dire, je sentimentalement et sexuellement, voilà.
Et même sentimentalement, je sais pas. En fait, par exemple, la mixité, quand t'es un... Les amitiés féminines, par exemple, quand t'es un ado gay, enfin, moi, personnellement, ça m'a sauvé la vie. Mm. Si j'avais pas des copines en sixième, j'aurais été foutu.
Ouais.
Enfin, ça, je pense que c'est une expérience commune à plein de mecs gays ou bi. Et du coup, bon, moi, je sais pas. Après, je suis pas non plus ultra... Enfin, bref. Je sais pas. c'est des questions compliquées. Mais cet attrait pour les divas, les icônes gays, Cher, etc. Moi, je pense que c'est parce que il y a un sens de l'excès dans tout ce qui est mise en scène, costume, qui est en fait c'est dans l'ordre du divertissement et de une sorte de sublimation de nos existences, pas forcément folichonne, peut-être. Et puis, bah, tout ce qui est... Oui, elle chante aussi des amours pour des mecs, du coup, ça aussi nous aide à nous rapprocher de ça, quand il... Je t'aime, je t'ai vu, quand t'es descendu de ton cheval, t'as trop la classe, blablabla. Enfin, il y a tout ça, ouais. Les thématiques abordées dans leurs chansons, ça peut y avoir plein de raisons, quoi.
Bien. Alors moi, justement, je voulais parler le média un petit peu, plusieurs médias. D'abord, il y a une information que je trouve très amusante. Très amusante, c'est, tu te rappelles, d'une émission de télévision. C'était pas une émission de télé, d'ailleurs, c'était une série. Une série qui s'appelait Justicier Milliardaire. Ça s'appelait L'Amour du Risque, les Justiciers Milliardaires.
Oui.
Avec, donc c'était...
Stephanie Powers,
exactement, et Robert Wagner. C'est les acteurs, c'était Jonathan et Jennifer Hart.
Bien sûr.
Jennifer Hart
et tu sais qu'en plus, parce que moi je regardais quand j'étais petite.
Oui.
Et ça repasse sur je sais plus quelle chaîne.
Oui, c'est souvent des gens d'émissions de télé qui repassent fréquemment sur les chaînes. Et effectivement... c'est une série qui a été diffusée en 1982, à partir de 1982, et après multi-rediffusée, c'est sur TF1. Et c'était donc deux milliardaires qui s'ennuyaient, ils avaient tellement de sous, ils s'ennuyaient, alors ils avaient décidé de faire se jouer les détectives.
Ils avaient un majordome.
Ils avaient un majordome.
Ils étaient joués par Lionel Stander.
Voilà, c'était très kitsch aussi, ils avaient une maison très kitsch, très milliardaire, style un peu Las Vegas. Et, voilà, c'était un peu les défenseurs de la veuve et l'orphelin. Et ce qui était remarquable, c'était Jennifer Hart, donc la femme dans le couple, Stéphanie, jouée par Stephanie Powers, qui avait toujours un brushing impeccable, même après une course-poursuite folle, après avoir échappé à toutes sortes de péripéties. Bon, elle était toujours nickel chrome. Et nous, c'est ce qu'on aime, nous, hein, n'est-ce pas? C'est ce côté-là dont on parlait et qu'on aime bien aussi, un peu démesuré. Jonathan et Jennifer, L'Amour du Risque, et bien du coup, il y a un remède qui va être fait.
Non.
Si, et bien il se trouve que C'est un couple gay qui va être...
Ouais.
Si.
Non.
Si, moi aussi, ça m'a beaucoup fait rire.
Mais sous forme de série ?
Oui, tout à fait. C'est un remake de la série. Hein. C'est la chaîne NBC qui est en train de tourner ça. Ça s'appellera L'amour du risque, normalement. Hein. Mais au lieu que ce soit donc un couple homme-femme, couple hétérosexuel, ça sera un couple gay, deux hommes qui seront ensemble, qu'on n'est pas encore plus... Voilà. On sait pas
et
plus
pourquoi
de
pas deux femmes ?
Oui, voilà, c'est vrai.
Pourquoi deux mecs ?
Tout à fait.
Voilà. Mmh.
Exactement. Et donc, voilà. Alors, Stéphanie Powers...
Comment ils vont s'appeler ? Jonathan et quoi ?
Ah ben, je sais pas. Jonathan et Johnny.
Et Jonathan
ou, je sais pas. Et du coup, y a plein de possibilités. Hein.
Ça y est, tu m'intéresses. On a les acteurs déjà ?
Pour une fois que je t'intéresse. Non, justement, on sait pas encore... On ne sait pas encore qui va jouer les rôles respectifs.
Okay.
On sait que Stephanie Powers avait été approchée par la production de cette série, donc par la chaîne NBC, et peut-être pour passer le relais un petit peu. Voilà. Et elle avait dit, dans une interview, elle en avait parlé à Téléstar, qui est mon magazine de télévision de référence, comme tout le monde sait, qui l'avait interrogé ce sujet, et qui avait dit que elle montrait peu d'intérêt pour ce projet, qu'elle était passée à autre chose. Et voilà. Et qu'elle avait 72 ans et que maintenant c'était du passé pour elle. Oui, parce qu'elle ne cache pas son âge.
Comme Bernard.
Bernardo, nous t'aimons. Voilà. Alors, je voulais aussi dire. Voilà, donc le remake de L'amour du risque.
Très bien.
Je trouvais ça hilarant. Bon. À suivre. On suivra ça avec attention. Je ne sais pas si tu avais déjà vu Marguerin, cette
Alors
série
non,
de quoi
ça me paraît bien vieux tout ça.
Oui. Ouais.
Ah oui, oui, oui.
Je te
oui,
remercie.
Oui. Oui, oui, voilà.
Désolé.
Le générique, c'est l'amour du risque.
Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. Voilà. Mais je regardais quand j'étais petite, qu'est-ce que j'y fasse.
Bon, toujours dans la série média.
Un programme avec un sous-texte un peu gay qui aujourd'hui, un peu ça. Les héros font leur coming out de plus en plus, quoi. Mm. Avant, c'était juste crypto, crypté, etc. Et on passe plus en plus du sous-entendu à vraiment l'explicite, quoi. Donc, à quand un James Bond complètement pédé ? Est-ce que ça suffit de devoir se faire ligoter par des méchants, là, se faire frapper dans tous les sens ? Ouais, il serait temps peut-être.
Certains disent, à quand un James Bond homo et un James Bond noir ?
Noir.
Mmh. Et moi, je dis, pourquoi pas faire les deux en même temps ? Noir et pédé, comme ça, ça fait d'une pierre deux coups.
Mmh. Mmh. Idriss Elba, il serait pas mal.
Qui ?
Idriss Elba.
Ah oui, je vois pas qui c'est.
Mais moi j'aime bien Daniel Craig quand même.
Ouais. Oui, enfin, pas bon, mal. Hein, ouais.
C'est Luther, c'est ça.
Alors toujours pour rester dans les médias, on a demain sur Arte, et il faut savoir que l'émission est podcastée sur l'audioblog de Arte. Et donc pour ça que j'aime bien parler de cette chaîne. Et puis en plus cette chaîne, on peut dire que c'est la chaîne la plus LGBT friendly du PAF, hein, on est d'accord.
On est d'accord.
En l'occurrence, demain il arrive la troisième saison d'une série qui s'intitule Ainsi soit-il. Ainsi soit-il au pluriel, soit-il au pluriel. Donc en fait c'est une émission. C'est une série donc
encore un truc de macho.
Oui, il y a que des mecs, c'est vrai. Ça se passe dans un séminaire, effectivement. Si, il y a pas que des mecs, parce qu'il y a quand même quelques filles qui gravitent autour de ces mecs.
Ouais,
ça se passe chez des séminaristes.
Oui, voilà.
Mais ça n'exclut pas non plus quand même un rapport avec ça, des femmes, même des rapports intimes.
Certes.
Voilà.
Et j'ai vu la première
et
saison.
Et amoureux. Voilà. Alors, il y a une première saison qui a très bien marché.
Oui.
Puisqu'elle a réuni 1 400 000 spectateurs.
C'est vachement bien cette première saison.
Voilà. Donc, du coup, ils en ont fait une deuxième série. Enfin, ça a été confié à une maison de production, ça s'appelle Zadig Productions. Et Rodolphe Tissot, c'est le réalisateur. Voilà. Donc, il y a une deuxième saison, effectivement, sur l'histoire de nos séminaristes. Et puis, là, arrive la troisième saison et la dernière. On dit, ça y est, on arrête. Il faut savoir que c'est une série qui s'est très bien vendue à l'étranger aussi, d'ailleurs. Et là, cette fois-ci, on se rappelle la deuxième saison, pour ceux qui l'ont vu, que le séminaire des Capucins, tel était le nom, a été racheté par un groupe immobilier. Et donc, les séminaristes ont été jetés à la rue, plus ou moins, et chacun va vivre maintenant sa vie un peu indépendamment, suivre son parcours de vie, tout en ayant des destins croisés, évidemment. Alors, pourquoi je parle de cette série ? Parce que non seulement elle est très bien faite, enfin, moi, je trouve elle est... très bien faite, c'est très intéressant. Et que dans cette série, il y a évidemment un séminariste homo, qui est joué par un acteur qui s'appelle Clément Manuel, qui s'appelle Guillaume dans la série, qui a donc des rapports amoureux avec un de ses condisciples. Voilà, ça c'est dans la première saison. Dans la deuxième saison, donc l'homosexualité de Clément Manuel, enfin c'est le nom de l'acteur, de Guillaume dans la série, est toujours présente. Bon, c'est pas le thème principal des saisons, hein. Chaque personnage étant construit selon aussi son rapport personnel à la spiritualité, à sa vie intime, à son parcours personnel. Mais donc, il y a ce personnage de Guillaume. Et dans la deuxième saison, on aborde notamment de façon plus large, je dirais, on évoque par exemple mariage pour tous, surtout les débats qui ont eu lieu autour du mariage pour tous et tous les mouvements, etc. Et on évoque aussi, un document qui avait été fait en 2005, qui a été publié en 2005 par le Vatican sous Benoît XVI et donc qui rappelait le non-accès au sacerdoce des personnes homosexuelles. Voilà. Donc c'est une exigence permanente de l'Église. Donc les séminaristes, eux, qui vivent ensemble, il y a donc Guillaume qui est au milieu de tout ça et discute de ça dans la saison. Bon, ça passe comme ça, souvent le message passe avec des avis très partagés autour de ce contexte intime, mais aussi dans le cadre de l'Église, les rapports qui lient Église, catholicisme, homosexualité.
Mais on est en plein dans l'actualité, dis-moi.
Ah oui, parce que oui, à cause tu fais allusion au prêtre polonais qui lui il a été révoqué, je crois, par le Vatican, il me semble.
Ah ok, ouais. Il s'est fait taper sur les doigts.
Il faut savoir que l'Église, elle distingue deux choses. Quelqu'un qui sait qu'il est homosexuel, normalement, ne devrait pas de lui-même entrer au séminaire, puisque c'est incompatible. Après, il y a des vocations homosexuelles tardives, on dira, et on peut dire que certains prêtres, oui, on s'est rendu compte qu'ils étaient homosexuels par la suite, c'est traité de façon différente avec l'Église, mais le maître mot, souvent dans l'Église catholique, c'est le silence. Essayer de ne pas faire état de ce genre de choses sur la place publique. Et ça, c'est des sujets qui sont abordés dans cette saison.
Il parle de la pédophilie ?
Pardon ?
Il parle de la pédophilie ?
Ah bah la pédophilie, non, parce que c'est un sujet quand même tabou.
Pour parler ?
Ah, tu veux dire dans la série ?
Oui, dans la série.
Dans la série, je n'ai pas souvenir que ce soit abordé. Je n'ai pas souvenir que ce soit abordé. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, hein, pas seulement des sujets...
Parce que ce qui a fait débat aussi avec cette histoire, le prêtre polonais, c'est que... Encore une fois, l'Église rejette les prêtres homo et par contre ne pipe pas mot sur les prêtres pédophiles, certains qui ont été accusés de centaines d'attouchements et qui sont toujours en poste et où l'Église est bouche cousue.
Oui, voilà. Mais après, ça fait un peu partie aussi de cette ambiance un peu secrète qui existe. Ce qui est dans l'Église, normalement, devra rester dans l'Église, quoi, quelque part. Hein. C'est ce que l'Église entretient comme état d'esprit depuis des siècles, je dirais.
Comme la mafia, un peu. Quoi.
Voilà, si on veut. Et donc, la troisième saison de Ainsi soit-il, ça commence demain. C'est à 20h50 sur Arte. Alors d'ailleurs, il y a l'acteur Clément Manuel que j'évoquais, qui joue le rôle de Guillaume, donc le séminariste homosexuel, lors d'une interview en 2014, a dit ceci, qui je trouve très intéressant, c'est pour ça que je le cite. On parle de l'homosexualité dans un milieu particulier, celui des prêtres. Ce qui était important pour les créateurs donc de la série était de ne pas stigmatiser l'homosexualité dans le sacerdoce. Parce que c'est une évidence qu'il y a des homosexuels chez les prêtres. Ils peuvent être plus ou moins refoulés, mais ils sont bien là. En parenthèse, qu'on le veuille ou non, que l'Église catholique le veuille ou non. Donc on n'a pas mis un homosexuel, il parle de son rôle dans la série, pour mettre un homosexuel comme dans la série Plus belle la vie. C'est-à-dire, c'est pas seulement le quota de l'homosexuel qui est respecté dans ce cas-là, mais pour décrire avec sincérité le paysage d'un univers qui est celui des prêtres. Hein, donc, pour lui, il considère que ça s'enracine dans la réalité. Son personnage s'enracine dans la réalité de ce qui est possible, quoi, dans le cadre de l'Église catholique. Voilà.
Est-ce qu'il existe un gène de la prêtrise ?
On
se pose beaucoup de questions sur les origines génétiques de l'homosexualité, mais moi j'aimerais bien savoir est-ce qu'il n'y a pas des origines biologiques à la prêtrise, parce que enfin, c'est quand même fou. Pour moi, c'est une orientation sexuelle à part entière.
La prêtrise.
C'est un choix de vie alternatif à l'hétérosexualité traditionnelle. procréatrices, etc. Et je pense que c'est des gens qui auraient pu être culturellement gays, effectivement, qui auraient pu être gays même sexuellement, s'ils avaient été dans un autre milieu d'origine, je pense. Donc c'est pas du tout étonnant quand ce prêtre dit que le Vatican est plein de gays, parce que c'est très certainement vrai. C'est une orientation sexuelle pour moi, la prêtrise, c'est clair et net.
Puis c'est très gay, le Vatican, si tu regardes bien. Je veux dire, ils ont leur drag queen, ils ont... c'est vrai, c'est très coloré, c'est très... On s'amuse bien, apparemment, au Vatican. Non, c'est vrai, quand le pape, les cardinaux en robe violette, avec des bagouses à tous les doigts, ça a quand même un côté un peu... Voilà. Un peu kitsch,
un peu festif,
camp.
Un peu camp.
Moi, je me suis toujours dit qu'en fait, certains hommes devenaient prêtres pour essayer de se faire pardonner certaines choses. Ah. Car pour eux, c'était mal d'être homo. Du coup, pour eux, il n'y avait que cette voie-là qui allait peut-être les aider à s'en sortir, ouais. Ou je ne sais pas quoi.
Oui, il peut y avoir ça. Il peut y avoir ceux qui se disent que c'est une façon, c'est un alibi, quelque part, pour éviter le mariage, pour éviter... Effectivement, peut être un mode de vie alternatif aussi, mais... Oui. Voilà, il faudrait qu'on invite un prêtre pour qu'il nous donne...
super idée.
Mais tu as déjà fait la demande.
Oui, mais moi, j'ai invité Barbarin, mais Monseigneur Barbarin...
Ah non, bah, par contre... Alors, on arrête tout.
Mais oui, mais ça serait intéressant d'avoir son avis.
Il y a des limites.
Non, mais...
À la perversion.
Alors, d'accord, moi, je suis pour inviter l'ennemi à ma table.
Oui, c'est vrai. Il aime bien.
Voilà, donc on va écouter un deuxième morceau. Donc, ça sera Philippe Catherine, cette fois-ci. Bernard est hilar. Il est perturbé par la présence de Boris, à mon avis.
Son stagiaire qui le fait rire.
Notre petit stagiaire barbu. Donc c'est Philippe Catherine.
Je suis cool quand t'es cool. Je suis triste quand t'es triste. Je suis stressé. Je suis sexy quand t'es sexy, 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 cool. Je me sens sexy, sexy, cool. Quand t'es sexy, sexy. Je chante toujours les mêmes chansons. Je chante toujours cette chanson. Je suis cool quand t'es cool. Je suis triste quand t'es triste. Je suis stressé. We'll be right back.
Nous sommes de retour à l'antenne.
Oui, bonjour.
Voilà. Avec Laurence Marguerin. On parlait du Vatican à l'instant, mais justement, on évoquait là, justement, à l'instant, là, avec Boris et Bernard, je suis allé voir en régie.
Boris.
Il y avait aussi les gardes suisses, parce que si on regarde bien les gardes suisses au Vatican, ils sont tous plus beaux les uns que les autres.
Ah, je sais pas.
Ah, si. Ils sont sélectionnés sur des critères de beauté physique masculine. Ouais.
Ah.
Ah, oui, moi
non,
je
mais
trouve.
C'est vrai?
Oui, bien sûr. Ben, non, j'ai jamais vu un ton au Vatican, les gardes
non, mais
les
ils
gardes
sont pas, ils sont pas recrutés pour ça. Enfin,
non, mais je dis ça, mais ils ont faim. Je dis ça, mais parce que c'est pas officiel. L'Église ne le dit pas. Tu as pas suivi. L'Église est dans le secret.
Oui, c'est vrai.
L'Église, c'est tout secret. En fait, ils sélectionnent les plus beaux mâles pour le Vatican, mais ils ne le disent pas. C'est tout dans le secret. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont fait un calendrier, je crois, les gardes suisses. Où il y a des prêtres aussi qui ont fait un calendrier.
Ils sont habillés, sûrement.
Ah non, 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 torse nu.
Non, mais n'importe quoi.
Si, ils montent leurs poignets et leurs chevilles. Attends, quand c'est grand.
C'est très chaud.
Alors, avant que nous nous séparions, je voulais juste parler d'un événement qui va avoir lieu dimanche et sur lequel nous reviendrons mercredi prochain, puisque nous aurons Romain, de rédacteur-chef d'Hétéroclite, au téléphone.
Romain Vallet.
Voilà, Romain Vallet. C'est le lancement, donc, dimanche soir, à 20h, de la deuxième édition du guide culturel Sissi. Est-ce que tu en as entendu parler ?
Alors non. Qu'est-ce donc ?
Qu'est-ce donc ? Alors, c'est un guide culturel intitulé, dénommé « Gender Friendly ». Voilà. Donc, c'est pas seulement LGBT, mais c'est surtout ce qui tourne autour du genre, etc. Attention, pas spécifiquement, c'est la thématique principale des spectacles, des films ou de tout ce qu'ils veulent parler.
Des spectacles surtout, non ?
Oui, des spectacles, oui, parce que les films, c'est surtout du spectacle vivant, en fait, dans Sissi. C'est pas, la thématique de ces spectacles n'est pas principalement LGBT ou sur le genre, mais c'est des thématiques qui peuvent coller, on va dire, un petit peu à ça. Gender friendly et LGBT friendly. Donc ça s'appelle Sissi cette année. L'année dernière, ça s'appelait Tutu. Voilà. Et du coup, cette année, c'est Sissi, ce qui veut dire tapette en anglais, d'ailleurs. Et donc dimanche prochain à 20h, c'est au Live Station, donc ça va être la soirée de lancement.
Live Station.
Oui, Live Station, 14 rue de Bonald à Lyon 7e, un lieu où il faut aller parce que c'est très bien.
Impératif.
Voilà.
Et on doit obliger les gens à y aller.
Oui, il faut y aller. Et il faut savoir aussi que le Live Station, donc cette soirée de lancement, il y aura de la musique, on va faire la fête, il y aura de quoi boire, de quoi manger, Bernard, de quoi boire, et il y aura un blind test aussi sur la thématique LGBT. Donc voilà, si vous voulez tester vos connaissances, c'est voir si vous êtes bon en culture LGBT, c'est à ce moment-là qu'il faut être, c'est là le lieu où il faudra être dimanche soir à 20h.
Blind test, donc pour une fois, il y aura peut-être plus de femmes dans le blind test que d'hommes.
Peut-être, oui. Surtout qu'au Live Station, il y a beaucoup de filles quand même qui vont au Live Station,
oui,
si
c'est pas
je
faux.
Trouve. Hein, beaucoup
je
de filles.
Je te confirme.
Mais c'est, le Live Station, on rappelle, c'est un lieu qui est ouvert à tous.
Oui,
hein.
Bien sûr.
Voilà, donc ça, c'était pour Sissi. Alors, la semaine prochaine, Romain viendra nous en parler un petit peu. Il ne viendra pas, il sera au téléphone pour nous en parler un petit peu, pour nous parler de Sissi. Donc, si tu veux en savoir plus sur Sissi, Marguerin, soit tu viens au Live Station dimanche soir.
Oh, mais j'y serai, je pense.
Voilà. Soit, tu te procureras le magazine, le guide Sissi, tu en sauras un petit peu plus.
C'est un gratuit, donc.
Oui,
oui,
c'est
oui.
Un gratuit.
Mmh.
Ouais. Très bien.
Oui, oui.
Mmh.
C'est un gratuit qui est réalisé par Hétéroclite, en fait,
oui,
comme Out, comme le guide Out. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? On va redonner tous les détails concernant...
L'atelier,
etc.
Collaboratif,
voilà.
Femmes artistes et domaine public.
Oui, alors c'est aussi une séance de présentation... Voilà, du projet, mais il faut savoir que ça sera en continu sur 3 mois et que si ça vous intéresse, vous pourrez venir vous présenter à la bibliothèque pour piocher donc dans cette bibliobox, ce petit panthéon virtuel des femmes artistes et venir récupérer ce que les autres usagers ont mis dedans œuvres littéraires, photos, peut-être vidéos, on va voir. Voilà. Donc c'est participatif, collectif, et ça dure 3 mois. La séance de présentation, donc c'est le samedi 17, on fera une petite présentation de la Bibliobox et du projet, puis voilà, ce serait l'occasion de nous voir.
Est-ce que, une petite parenthèse, vas-y, après je dirai. Vas-y.
Sur ces 3 mois, donc on peut se présenter tous les jours.
Oui, voilà. Oh, okay.
Est-ce que vous avez déjà des retours concernant l'atelier?
Non, pas encore, mais c'est vrai qu'on profite de plein d'événements qui se passent en même temps. C'est la quinzaine de l'égalité homme-femme à Lyon, vous avez peut-être vu les affiches dans la ville. Enfin voilà, du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs, pas mal d'événements prévus autour de ce thème, donc on profite un peu de ça comme tremplin pour faire un peu de com' et tout.
Parfait.
Est-il nécessaire de dire que je mettrai tous les renseignements?
Mais oui, toujours, c'est toujours nécessaire
voilà,
de dire.
Sur le site de l'émission, pluriel-gay.fr, sur la page Facebook de l'émission. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, sinon qu'il se taise à jamais? L'émission, on va conclure notre émission. Merci Lolo, en tout cas, d'être venu encore une fois m'épauler.
Mais merci à toi.
Dans cette dure tâche de présenter l'émission.
Mais oui, merci à toi.
Dure mais agréable en même
temps. Merci à Marguerin.
Ouais, bah merci à vous.
D'avoir fait le déplacement jusque dans cette lointaine banlieue.
Ouais.
Et puis merci à Bernardo pour avoir assuré comme d'habitude comme une bête.
Et à Boris. Les deux B.
Les deux B, voilà. Et on va s'écouter. Donc, on avait dit qu'on écoutait Klaus Nomi, d'accord? Moi, j'aime bien Klaus Nomi.
Alors, t'as vu comme t'es?
Ding dong de Winchester.
Ah, il exagère.
J'aime bien celle-là.
Quel macho.
Non, mais après, on
parce que alors, John Jett, tu dis qu'on a déjà passé. Et par contre, Klaus Nomi, bien sûr, on ne l'a jamais passé dans cette émission.
Non,
bien
mais John
évidemment.
Jett, on l'a passé récemment. Mais si on a le temps, on mettra John Jett derrière Klaus Nomi.
Ouais, c'est
voilà.
Ça. C'est ça. Je m'occupe de la musique jusqu'à la fin.
No miracle. What happened was